Bonjour Jean-François Froget.
Bonjour Père Éric.
Nous nous retrouvons donc pour poursuivre notre parcours sur le livre de la Genèse et plus particulièrement sur les récits, les deux récits de la création. Donc nous en sommes à notre troisième émission. Nous avons introduit la première émission autour du caractère inspiré de l'ensemble des livres du canon biblique pour bien préciser que nous sommes en présence d'une parole vraie et non d'un récit mythique où la raison se trouverait défaillante. Vous avez notamment cité différents textes du magistère qui soulignaient l'authenticité de ces textes et donc l'importance d'en comprendre le sens rationnel, à savoir que ces textes sont là pour nous instruire en nous aidant à comprendre ce qui définit l'homme et plus précisément la nature humaine. Une seconde émission, donc cette première émission s'appelait « Introduction à la lecture de la Genèse », la seconde émission, qui était intitulée « Bereshit » au commencement, nous a permis d'entrer davantage dans le texte du récit de la création que nous avons lu lors de notre première émission et que nous reprendrons par verset aujourd'hui. Cette seconde émission, vous nous avez longuement développé ce qui spécifie la divinité, à savoir qu'au principe, au commencement, donc « Bereshit » en hébreu, la divinité parle, elle crée par sa parole. La divinité se définit donc comme ce qui parle à l'homme et ce qui crée l'homme, puisqu'Adam, le premier homme, ne s'inscrit dans aucune génération humaine. La première parole de la divinité crée la lumière. Je recite ce verset, et Dieu dit que la lumière soit. Cette lumière originelle, vous nous l'avez présentée comme la parole même de Dieu. Nous voilà donc inscrits dès le principe dans une relation entre la divinité et l'homme. Ce qui constitue notre nature humaine est donc divin. Dieu a parlé à l'homme et l'homme peut parler parce qu'une parole lui a été adressée dès l'origine. Alors bon, voilà, c'est un bref résumé un petit peu de ce que nous avons parcouru. Sachant que nos auditeurs le savent, ils peuvent se procurer ces premières émissions auprès de RCF GAP. Donc nous commençons notre troisième émission que nous allons consacrer plus particulièrement au jour biblique. Alors pour faire un lien avec l'émission précédente, où vous évoquiez la séparation par la divinité de la lumière et des ténèbres et leur nouvelle appellation en jour et nuit. Alors pouvez-vous nous définir ce qu'est un jour, une nuit et quelle analogie sous-tend ce nouveau vocabulaire biblique?
Oui, alors d'abord, qu'est-ce qu'un jour? Tout le monde a le souvenir d'avoir entendu le récit de la création en 6 jours et un 7e qui est un peu spécial, on verra. Et ces 6 jours restent comme quelque chose de non dit, puisque apparemment le mot ne fait pas de problème. Alors, en hébreu comme en français, le mot jour désigne 2 choses. Il désigne d'abord, le fait qu'il fait jour, c'est-à-dire qu'il y a de la lumière, opposée à la nuit, et en même temps, le mot jour désigne la totalité, nuit-jour, les deux. Et c'est ce qu'on voit dans ce texte, par exemple, à la fin, il y eut un soir, il y eut un matin, jour unique. Alors, ce jour unique nous saisit, d'abord, ça n'est pas traduit ainsi habituellement, puisque, comme nous connaissons le texte, nous savons qu'il y a des jours qui succèdent, on a la tentation, même quand on est traducteur, de traduire « premier jour ». Et à peu près toutes les traductions liturgiques ont cette traduction-là. Alors, c'est pas faux. Bien sûr qu'il va devenir le premier d'une série. Mais, dans le récit lui-même, lorsqu'on le raconte, il n'est pas le premier d'une liste, il est d'abord une forme fondamentale qu'il nous faut considérer. Une forme unique.
L'unicité de ce jour.
Alors,
ou des jours.
Voilà. Tous les jours sont des jours. Donc, il y a une réalité jour, en quelque sorte, qu'il nous faut considérer. Et simplement, le refrain qui va venir souligner chaque jour ensuite, ça sera « Il y eut un soir, il y eut un matin, jour deuxième, jour troisième, etc. » Et donc, ça va nous désigner ce que nous connaissons, nous, comme jour, effectivement, tous les jours de la semaine, les jours dans l'année. Et il se trouve que tous les jours ont la même forme, alors évidemment une forme abstraite, parce que, et nous le verrons plusieurs fois, l'Écriture se sert d'images qui nous sont accessibles et même observables facilement, comme les arbres, la lumière, la nuit, le jour, etc., pour nous faire considérer des réalités intelligibles qui sont dites par analogie. Ça, il faut se le redire à chaque fois. Sinon, on a tendance à adhérer, en quelque sorte, au texte littéralement. Alors, il y a une façon intelligente de le faire et une façon sotte. Y adhérer littéralement en disant, puisqu'on nous parle de jours, il s'agit des jours que nous connaissons. Alors c'est vrai et c'est faux à la fois. C'est vrai parce que c'est l'image qu'il faut considérer, et c'est faux parce que cette image n'est pas à considérer en tant que telle, mais pour qu'elle nous montre autre chose. Alors qu'est-ce que nous montre le jour ? Eh bien, précisément, ce que dit le texte, c'est qu'il y a un soir et un matin, et que ça recommence. Donc il y a une forme fondamentale du jour qui est un cycle. C'est une chose qui revient régulièrement. Donc il y a la suite des jours. Et comme on appelle d'ailleurs, il y a un livre dans l'Écriture sainte qui s'appelle « Divrei Hayamim », les paroles des jours, et qui se traduit par les chroniques, livres d'histoire. Pourquoi ? Parce que les événements qui se passent dans notre histoire humaine, ça se passe un jour. Et d'ailleurs, on est obligé, pour nous repérer, de donner des dates. Ça s'est passé le 7 avril de l'an 30.
La chronologie des jours.
C'est la résurrection de notre Seigneur. On sait dire le jour et même l'heure. Donc, la chronologie, c'est la science de la succession des jours. Alors, évidemment, comme c'est pas très pratique, on va diviser ensuite en semaines, en mois et en années. Alors, ça, nous y reviendrons, parce que c'est très important de voir pourquoi on découpe la succession des jours en morceaux, en semaines, par exemple, justement, puisque la création va nous être racontée en 6 jours plus 1. Alors, nous verrons ce que ça signifie ensuite. Mais d'abord, bien considérer le jour comme un cycle. C'est, alors, si vous voulez, on peut le figurer, comme tout le monde l'a toujours figuré, par un rond, par un cercle. Les jours sont ronds, comme dit un poète. Ben, oui, et c'est un rond qu'on reparcourt indéfiniment. Et nous avons vécu un certain nombre de jours, chacun dans nos vies. 10 ans, et ben ça fait 3650 jours, quelque chose comme ça.
Le rond, un petit peu comme la course du soleil, pourrait nous décrire une rondeur des jours.
Voilà. Il se trouve que notre expérience sensible, sur quoi vont se fonder toutes les images qui vont nous être données, notre expérience sensible, c'est bien de voir le soleil se lever le matin et se coucher le soir. Donc c'est comme si le soleil faisait une ronde autour de nous, à l'horizon, et puis ça monte au zénith, et puis ça se couche le soir. D'où le levant, l'occident, enfin, le lever, le coucher. Et ensuite, la nuit disparaît. Alors, on imagine qu'il continue à tourner autour de nous la nuit. Et les Égyptiens se représentaient les choses ainsi. Et pour nous, cette représentation reste tout à fait valable. Parce que c'est ce que nous vivons au niveau de la sensibilité. Alors, bien sûr, nous sommes allés aux écoles, et on sait que c'est la Terre qui tourne autour de son axe, etc. Nous sommes devenus très savants. Mais, pour comprendre les images de la Bible, il faut prendre les images telles qu'elles signifient immédiatement au niveau sensible. Donc, pour nous, c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. Voilà. Et ça n'est pas idiot du tout, puisque c'est ce que nous voyons. Alors, on va se servir de cette image pour signifier autre chose. Alors, on va signifier beaucoup de choses dans ces jours, et c'est ce que nous allons voir dans ce récit.
peut-on juste faire une parenthèse sur cette unicité du premier jour, en ce sens où dans le schéma Israël, nous trouvions aussi cette expression d'unicité à travers un seul Dieu, un Dieu unique. Et je me permets aussi d'ajouter ce qui nous est dit à la fin du récit donc de la création sur l'homme qui quittera son père et sa mère pour ne faire qu'une seule chair avec sa femme.
Voilà.
En tout cas, une chair unique. Alors, nous retrouvons ce même mot, era.
Erad. Erad. Alors, à chaque fois, c'est exactement le même mot. Et d'ailleurs, un commentateur de l'écriture, qui s'appelle Rashi, au 11e siècle, à 3, dit que ce mot, yom erad, c'est un jour unique, est le même, évidemment, et évoque le Dieu unique, donc, comme vous le rappelez, qu'on dit dans le credo, enfin, dans la profession de foi, écoute Israël, yod he vav he, notre divinité, yod he vav he, est unique. Il est unique, mais vous voyez bien qu'on peut traduire aussi, il est un. Hein? Alors, l'unité divine en lui-même, et on va voir que c'est très signifiant. Alors, le jour est un aussi. Et c'est, alors, ça vient en consonance. Et de la même façon, il n'y a pas beaucoup d'expressions de ce genre. Vous avez raison de souligner que on va se servir de cette unicité dans l'union de l'homme et de la femme. Hein, pour faire une chair unique. Alors, évidemment, là aussi, il y a une image. L'image, c'est l'image de la relation sexuelle du mari et de la femme. Mais ce n'est qu'une image pour signifier une réalité invisible, comme ici, comme en Dieu. L'unicité de Dieu, ça signifie quelque chose. Ça ne veut pas dire que parmi tous les dieux, il est unique, c'est-à-dire qu'il n'y en a aucun autre qui lui ressemble, ce qui est vrai par ailleurs, hein, ou qu'il n'y en a qu'un. Mais alors, c'est pas la peine de dire qu'il est unique. Hein. Voilà, il est un en lui-même. Alors là aussi, il y a une unité du jour. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Alors, pour ça, il faut lire la description qu'on en donne dans le premier, parce que le premier est effectivement la forme unique du jour, et dans cette forme unique, il s'y passe, que nous avons déjà un peu dit la dernière fois, la distinction entre la lumière et les ténèbres. Et je relis le texte, si vous voulez bien. Et la divinité dit qu'il y ait de la lumière. Et il y eut de la lumière. Et la divinité vit que cette lumière était bonne. Et la divinité sépara entre la lumière et entre la ténèbre. Et la divinité appela la lumière jour et la ténèbre nuit. Et il y eut un soir, il y eut un matin, jour unique. Donc l'unicité de ce jour concerne ce qui s'y est produit. Et effectivement, cette séparation de la lumière et des ténèbres est une chose parfaitement unique. Mais il faut qu'elle se produise. Et vous vous souvenez que, dans notre interprétation, tout ce qui va être raconté jour après jour concerne le but de toutes ces actions qui va être l'apparition de l'homme. Le sixième jour, il y aura cette parole que tout le monde connaît, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Ça se termine là. Après, c'est le jour de repos donc, que nous commenterons en y arrivant. Donc, tout est orienté pour la construction de l'homme. Le premier jour est un acte unique, en quelque sorte, qui initie l'existence même de l'homme. Et on l'a déjà un peu vu, puisque c'est une parole divine, que la parole par analogie, c'est ce qui constitue notre nature humaine, puisque on nous parle et nous parlons. Et donc, ce que nous avons dit la dernière fois, c'est que l'essai in de la relation de parole, parce que la parole est toujours une relation, c'était une parole divine, c'est quelque chose de divin. Ce dont nous n'avons pas conscience habituellement, et nous avons vraiment besoin d'une révélation pour en prendre conscience, pour dire, ah mais oui, maintenant qu'on le dit, bien sûr c'est comme ça. Donc nous pouvons adhérer par notre intelligence à la chose révélée.
Voilà. Alors je vous propose, Jean-François, que nous prenions un premier intermède musical. Jean-François, nous reprenons. Alors ce jour donc, qui définit un cycle, comme vous venez de nous le dire, donc nous voyons que dans le récit de la création, si ce jour est certes unique, mais il y en a six, donc six étapes, puisque vous nous décrivez la première, pour faire de l'homme. Alors que signifie cette succession des jours, ou cette succession plus un, puisque vous nous avez dit qu'il y avait six jours plus un jour particulier, mais qui peut correspondre quand même à la division de nos semaines?
Alors oui. Donc nous savons tous que les semaines, c'est sept jours. Et dans l'Écriture sainte, c'est six jours plus un. Alors, ça fait la même chose, on dirait. Non, parce que le septième jour, nous le verrons dans le récit, n'a ni soir ni matin. Donc ça appelle notre attention sur ce que c'est que le soir et le matin.
Contrairement aux six premiers jours qui, eux, ont ce refrain scandé, il y eut un soir, il y eut un matin, premier, second, etc. Oui.
Etc. Donc, à chaque fois, on s'applique bien à nous dire qu'un jour, ça a un soir et un matin. Et pour le septième, il n'a ni soir ni matin. Cela signifie que ça n'est pas vraiment un jour. Alors, on pourrait appeler ça un non-jour. Donc, ça va être, je ne veux pas trop en dire maintenant, mais ça va être un jour, effectivement, sorti du cycle. Alors, pour ça qu'il faut voir que le jour, c'est un cycle, et que six jours, c'est une explicitation du cycle. Pourquoi ? Tout le monde sait que un cercle se divise en six très facilement, parce qu'il suffit de prendre le rayon et de le reporter le long de la circonférence. Et donc, on a une division tout à fait naturelle du cercle, qui veut dire cycle, évidemment, hein, en six. Et c'est tellement naturel que, justement, les premiers calculateurs que nous connaissions, les Chaldéens, quand ils ont observé le ciel, pour décrire la journée, ont pris un système sexagésimal, c'est-à-dire à base 6. Et c'est pourquoi nous avons encore aujourd'hui 24 heures. C'est 4 fois 6. Hein. Et les heures sont divisées par 6. Il y a 24 heures dans la journée, oui. Les heures, c'est 60 minutes, et les minutes, c'est 60 secondes. Vous voyez, tout va par 6. Pourquoi ? Parce que ça divise naturellement et exactement le cercle. C'est une division tout à fait naturelle.
Donc, cycle complet, pourrions-nous dire, même si ce jour représente un cycle en lui-même.
Voilà.
Donc, la division en 6 parties représenterait elle-même un cycle.
Voilà.
Achevé peut-être.
Si on veut représenter un cycle dans toute sa richesse, on va prendre 6. En plus, comme les anciens étaient très attentifs au nombre, ils savaient que le nombre 6 est un nombre parfait. Ce qui existe encore en mathématiques, c'est un terme mathématique. Pourquoi ? Parce que 6 est la somme de ses diviseurs. 1 plus 2 plus 3. Voilà. Ça, c'est les anciens. Mais on peut accueillir leur idée qui est tout à fait juste. Il y a quelques nombres parfaits, il n'y en a pas beaucoup. Le prochain, c'est 28. Voilà. Alors, le septième jour, ça va poser un très gros problème, évidemment, parce que dans la suite des jours physiques, c'est un jour comme les autres, bien sûr, qu'il y a un soir et un matin. Oui, mais puisqu'on nous dit qu'il n'a pas de soir et de matin, il va falloir le considérer comme un non-jour. Donc, il va y avoir quelque chose de très spécial ce jour-là, et effectivement, ça... Le récit montre que ça n'est pas un jour de création. Donc ça va nous distinguer la création et autre chose dans notre rapport à la divinité. Donc n'anticipons pas trop. Hein. Mais voyons pourquoi ce cycle est signifié par deux choses qui attirent notre attention, à savoir le soir et le matin. Et le changement de vocabulaire qu'il y a. Parce que Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y a de la lumière, et ensuite, Dieu sépare la lumière des ténèbres, et ensuite, il appelle la lumière jour et la ténèbre nuit. Mais il vient de faire quelque chose, pourquoi changer les noms? Il y a un changement de vocabulaire. Puisque la lumière, pourquoi l'appeler jour? Et la ténèbre, pourquoi l'appeler nuit? Mais pour une raison simple, c'est que le jour et la nuit, nous en avons l'expérience. La lumière et les ténèbres, non. Ce sont des mots qui veulent dire quelque chose pour nous, mais qui doivent être considérés comme les noms d'une réalité invisible, une réalité intelligible. Et en changeant le vocabulaire, donc on nous fait faire attention à la compréhension des images.
Alors la lumière sur un plan intelligible, vous nous l'avez décrite comme la parole, mais la ténèbre, alors ça nous renvoie d'ailleurs à ce premier verset que nous n'avons pas commenté de la Bible, à savoir que Dieu crée le ciel, la terre, la mer, la ténèbre, etc. Bon,
alors il faut redire la phrase entière, voilà. Et que tout le monde écoute bien, parce que en général on a un résumé dans la tête et non pas la phrase complète. Et ma foi, c'est la phrase complète qui a du sens. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide.
Tohu
vabohu en hébreu. Oui. On ne sait pas trop bien traduire. On va voir pourquoi. Donc la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient sur la face de l'abîme, apnetheom. Et le souffle divin palpitait au-dessus des eaux. Voilà. Ça, c'est la première phrase. La première phrase, principe. Et ça commence par une parole, ensuite, et Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Bon. Ça, nous l'avons commenté. Donc, cette toute première phrase, on ne peut pas la commenter tout de suite parce qu'il faut être au courant que ce qui est dit au niveau des principes. Par conséquent, quand on nous parle des cieux, de quoi nous parle-t-on? C'est pas pour qu'on regarde des étoiles. Bien sûr que c'est ça que nous voyons, ça c'est l'image. Et quand on nous parle de la Terre, ben bien sûr c'est ce que nous voyons autour de nous. Les montagnes, les rivières, les fleuves, enfin, etc. Oui, mais c'est pour qu'on voit autre chose. Et quand on nous parle de l'abîme, c'est pour qu'on prenne conscience qu'on ne peut rien y voir, puisqu'on nous dit qu'il y a des ténèbres qui la recouvrent. Alors voyez, quelque chose qui est recouvert par les ténèbres, dans le principe, ça veut dire que vraiment, vraiment, on ne peut rien y voir. Et à jamais, puisque c'est dans le principe. C'est pas quelque chose qui va changer. Bon. Et ensuite, le souffle divin qui souffle au-dessus des eaux, qui palpite au-dessus des eaux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est une image, bien sûr. Et ces images doivent avoir un sens. D'ailleurs, comprendre le texte, c'est comprendre le sens que ça peut avoir. Alors, si vous voulez, on commence à réfléchir à ça, puisque ça va colorer, évidemment, tout le reste. Et en particulier, ce changement de cette séparation de la lumière et des ténèbres, ben, qu'est-ce que ça veut dire, finalement? On n'avait parlé que de la lumière la dernière fois. Alors, il faut commencer par les cieux. Créer, ça c'est déjà trop difficile pour nous, on remet, vous voyez, on aborde les choses par ce qui nous est accessible d'abord. Ben, ce qui nous est accessible, c'est de regarder les cieux, on regarde, qu'est-ce qu'on voit? La lune, la nuit, enfin en tout cas, même le jour parfois, puis ça tourne, et puis il y a les planètes, et puis il y a les étoiles, et puis quand on est attentif, on voit que tout cela est d'une régularité extraordinaire, qui va d'ailleurs nous permettre de construire des calendriers. Ça revient. Et du coup, on va construire calendrier de l'année, et puis, etc. Et puis, on admire, puisque c'est d'une régularité invariable, au moins à vue humaine. Mais c'est ça qui nous intéresse.
Cyclique, hein, elle aussi.
C'est cyclique, tout ça. Et c'est parce qu'il y a des cycles qu'on peut construire des calendriers. Et un temps uniforme et linéaire, il n'y aurait aucune datation possible. Mais grâce à Dieu, ça tourne. Il n'y a pas que la terre qui tourne. Tout tourne. Et les cieux, alors autour d'une étoile fixe, que nous, pour nous en tout cas c'est l'étoile polaire, hein, ou l'étoile du sud, de l'autre côté, il y a quelque chose qui nous paraît fixe et qui permet de décrire le mouvement. Parce que un mouvement sans rien de fixe serait indescriptible. Il faut les deux. Et tous les hommes, à ma connaissance, en regardant et en admirant le ciel, ont eu l'idée abstraite de l'ordre du monde, au point que les Grecs ont appelé ça un cosmos. Cosmos, ça veut dire ordre, en grec.
En grec.
Donc, quand on nous dit, on va faire des voyages dans le cosmos, c'est, on va faire des voyages dans l'ordre. En fait, pour nous, ça s'est enrichi un peu d'autre chose, puisque c'est devenu matériel. Mais pour les anciens, c'était quasiment divin. C'était une représentation de l'ordre en soi. Alors, cela nous permet, par une abstraction, mais qui est presque immédiate, de dire, ah, on nous parle des cieux, mais c'est pour nous parler de l'ordre qu'il y a dans le monde.
Une certaine stabilité.
Eh ben, l'ordre, par définition, c'est invariable. Ce sont les lois du monde. Et c'est bien parce qu'il y a des lois qu'on peut faire de la science. Si tout bougeait tout le temps, ben, si, ça serait impossible. Donc, il y a des choses invariables par rapport auxquelles d'autres choses varient. Donc, on est obligé d'avoir de l'immutabilité et de la mutabilité.
Et puis,
donc, le ciel va nous mettre en face de l'ordre immuable.
Qui sont elles-mêmes contraignantes, en ce sens où on ne peut pas négocier avec la pesanteur, avec...
On ne négocie pas avec les lois du monde, ça c'est sûr.
On est obligé de composer avec... c'est une donnée
qu'il faut
accueillir.
C'est une donnée qui nous fait exister. Donc, ça n'est pas pesant. Enfin, c'est de toute beauté. Maintenant, on va avoir tendance à identifier cet ordre immuable avec la divinité elle-même. Ça, c'est une idolâtrie. Et c'est dit dès le premier verset. Pourquoi ? Parce que Dieu crée cet ordre, donc il n'est pas cet ordre. Et la plupart des gens, malheureusement, dans beaucoup de religions, et dans le christianisme, quand il n'est pas tout à fait éclairé, on pense que Dieu, c'est l'ordre. Ah non ! Non, non. Il y a de l'ordre dans le monde, et il est créé par Dieu. Donc il y a des lois. Bon, on est tranquille, on va pouvoir faire de la science, et c'est très bien. Mais il n'y a pas que cela. Il n'y a pas que de l'ordre. Si vous avez bien entendu, il y a quatre images. Il y a les cieux, il y a la terre, il y a l'abîme, et il y a les eaux. Et deux interfaces, en quelque sorte. Une interface entre la terre et l'abîme, il s'appelle les ténèbres. Les ténèbres, c'est rien, c'est quelque chose qui cache. Et il y a une interface entre les eaux et la terre aussi, ou les cieux, on ne sait pas trop là, c'est le souffle divin. Et le souffle divin, ce n'est pas une des choses. Bon. Donc on a quatre choses. Ah, la première concerne l'ordre. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière les trois autres ?
Tohu Vabohu, que représentent ces deux, ce descriptif que nous n'arrivons pas bien à traduire, comme vous
voilà.
le disiez, et
alors,
qui pourtant illustre la vie sur Terre.
C'est ça. Et, d'abord, il faut prendre conscience que Tohu Vabohu, donc c'est pour nous, c'est le désordre, quoi. Informé vide, bon, ça, c'est... Oui, non, prenons patience, parce que justement, c'est pas bien traduire, même littéralement. Parce qu'il y a que deux occurrences de ces mots-là, il y en a une autre chez Isaïe, bon, etc. Alors, il faut réfléchir d'abord. Puisqu'il s'agit de l'ordre, il faut quelque chose de trouver cohérent. Prenons l'abîme, c'est plus simple. Pourquoi ? Parce qu'on n'y voit rien. Donc, comme on n'y voit rien, c'est par définition quelque chose d'inconnaissable. C'est dans le principe. Dans le principe, il y a quelque chose qu'on ne peut pas voir. Donc, on ne peut pas comprendre. Et ce qui recouvre ça, c'est la ténèbre. C'est intéressant puisque la lumière va en jaillir. Bon. Alors, donc on sait qu'il y a quelque chose d'inconnaissable. Si on nous le signale, c'est que les principes concernent la connaissance. Ah, mais bien sûr, l'ordre, ça nous est absolument nécessaire pour la connaissance. Donc, l'ordre que les cieux figurent, c'est capital pour la connaissance. Donc, nous sommes dans un domaine de la connaissance. Donc, on en a un point, c'est ce qui est parfaitement connaissable, à savoir les lois du monde. Il faut faire des expériences, il faut avoir des théories, il faut travailler, d'accord ? Mais elles sont là, et comme vous disiez, on négocie pas avec, c'est comme ça. Donc là, c'est pas à mettre au vote. Bon, très bien, il y a des lois. Et il y a aussi quelque chose alors qui ne relève pas de la loi, pas de l'ordre, puisqu'on ne peut rien en connaître. Ah, donc nous sommes en suspens. Allons voir les eaux, parce que ça nous est plus accessible. Parce que les eaux, ben, c'est ce qu'on voit sur les fleuves, à la mer, ou dans un lac. De l'eau, on en a partout. Il y a l'eau de pluie, d'accord. Mais enfin, alors regardons un peu l'imaginaire qui est lié à l'eau. Qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit surtout, par exemple, dans une mare, dans un lac, et même dans la mer, à l'occasion, le reflet du ciel. C'est un reflet. Il n'y a pas d'image propre à l'eau. L'eau est transparente. Bon, mais c'est très vite sombre. On n'y voit rien. Derrière, c'est l'abîme. Effectivement, il n'y a rien à voir. Il y a tout à voir. C'est-à-dire qu'on va y voir des images. L'eau et les rêves, comme disait Gaston Bachelard. C'est le monde du rêve, le monde de l'inconsistant. On voit, puis on voit plus. Un souffle, et c'est déformé. Ça n'a pas d'ordre. C'est complètement déformable. Donc, ça va figurer très intelligemment. C'est l'image de ce qui n'a pas d'ordre propre.
Du non-ordre.
Voilà, vous l'avez dit. On va appeler ça le non-ordre. On va pas appeler ça le désordre. Il faut être prudent. Parce que désordre, il y a quelque chose de désagréable derrière. Hein. C'est là où il aurait dû y avoir de l'ordre. Il y a du désordre dans une chambre. Parce qu'on aurait pu y mettre de l'ordre. Mais là, dans l'eau, on peut pas y mettre de l'ordre. C'est pas du désordre, alors. C'est quelque chose qui n'a pas d'ordre. Or, disons le mot tout de suite. Dans le monde contemporain, ce qui n'a pas d'ordre, on appelle ça aléatoire. Le hasard. Hein. C'est les choses se forment, se déforment. Sans règle. C'est aléatoire. Ah, donc le non-ordre.
Alors, Jean-François, avant de voir donc ce quatrième élément de cette structure de la création, nous allons écouter une seconde plage musicale. Jean-François, nous allons essayer d'achever ce premier verset, en tout cas de poursuivre l'explication, sachant donc que vous nous avez expliqué que les cieux nous orientaient davantage vers une certaine stabilité, un ordre des lois, que la ténèbre couvrant l'abîme était plutôt du côté de l'inconnaissable, quelque chose qu'on ne peut pas percevoir, et les eaux étaient du côté de ce qui est voilà, mouvant, bougeant, un reflet, mais... Alors, il nous reste à voir ce qu'est la Terre.
Ce que signifie l'image Terre voilà. Dans ce verset. Donc, la Terre, on nous le dit d'ailleurs d'une façon extraordinairement précise, elle est tohu vabohu, deux choses. Et tout le monde traduit informe et vide, ce qui n'a pas de sens. La Terre n'est pas informe ni vide, mais elle est bien un mélange de deux choses. Mais un mélange de quoi? Et puisque nous sommes dans l'ordre de la connaissance, et qu'il y a un terme qui est l'ordre, l'autre qui est le non-ordre, c'est très évident, quand on l'a vu, que la Terre, c'est-à-dire toutes les images qui nous sont données, toutes les réalités qui nous sont données à voir et à contempler habituellement, sont un mélange d'ordre et de non-ordre. Et il se trouve que tous les événements auxquels nous avons affaire et que nous étudions en science, donc expérimentalement ou tout banalement dans la vie courante, c'est un mélange d'ordre et de non-ordre. Autrement dit, ça obéit à des lois, mais pas uniquement. Il y a aussi de l'aléatoire. Alors, effectivement, quand on fait de la physique, on sait que il y a des structures de lois indéformables, voire des constantes, et puis une part d'aléatoire. Mais dans l'expérience quotidienne aussi, on peut le voir. Et qu'est-ce qu'on voit? Des choses qui sont extrêmement régulières, donc qui sont presque entièrement ordonnées, où il y a très 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 peu de variations. Donc, par exemple, la vue scientifique des cieux. Ils figurent l'ordre, mais en réalité, quand on les voit, c'est des choses créées matérielles. Or, leur régularité admet tout de même quelques perturbations. Donc, ça n'est pas absolu. Mais ça, ça fait partie de la Terre, en quelque sorte. Parce que les cieux qui figurent l'ordre, c'est purement intelligible. C'est intellectuel, si vous voulez. Bon. Et quand on regarde un tas de sable, alors là, on a presque quelque chose de presque entièrement en non-ordre. Et d'ailleurs, ça coule comme l'eau quelque part. Vous voyez, les grains de sable sont distribués de façon aléatoire dans le tas. Et, mais la forme générale d'un tas est quand même une distribution statistique qu'on peut mesurer. Alors ça, ça s'appelle une courbe de Gauss, par exemple. Bon. Et alors, sur Terre, dans tous les événements de la Terre, nous aurons des choses qui sont presque entièrement ordonnées, donc on va parfois abusivement identifier à des lois, et des choses presque entièrement aléatoires et qu'on va abusivement identifier au hasard. Parce que les lois et le hasard, ça existe, mais sur Terre, c'est toujours un mélange des deux. Donc, alors nous, on n'aime pas trop. Alors, une des erreurs, par exemple, de M. Monod, c'est qu'il a tout réduit à le hasard et la nécessité, si vous vous souvenez de son œuvre. Mais bien sûr, tout ce qu'il observe, c'est du hasard et de la nécessité. Sauf qu'il oublie deux autres termes. C'est alors, qu'il n'y a pas que du non-ordre et de l'ordre. Il y a le mélange. Or, ce qu'il observait, c'était un mélange des deux. Et il a oublié l'abîme, évidemment, puisqu'il n'a pas lu l'écriture. Et les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme. Alors l'abîme, qu'est-ce que ça peut bien être? Alors il suffit de faire un peu de logique. Vous avez de l'ordre, du non-ordre, un mélange ordre et non-ordre. Eh bien, il y a un quatrième terme qui est ni ordre, ni non-ordre. C'est-à-dire ni légal, il n'y a pas de loi, ni aléatoire.
Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple, justement, qui pourrait nous éclairer sur quelque chose qui ne relèverait ni de l'ordre, ni du non-ordre?
Oui. Alors attention, l'écriture nous dit qu'il y a un voile de ténèbres dessus. Donc, qu'on ne peut pas le connaître. Mais on peut le nommer. Comme on dit l'abîme, on peut le nommer. On ne peut pas le voir puisqu'il y a des ténèbres. On sait qu'il y a de l'inconnaissable. Eh bien, il y a une chose inconnaissable, capitale, que nous pouvons nommer et que nous ne pouvons pas voir. C'est notre propre intelligence. Car l'intelligence humaine, a fortiori l'intelligence divine, l'intelligence humaine ne relève ni des lois, ni du hasard. Elle est en général accompagnée tout de même de volonté, parce qu'on ne peut rien comprendre, qu'on ne veuille comprendre, et on ne peut rien vouloir, qu'on ait quelque part compris, au moins comme désirable. Bon. Et donc, nous sommes face au mystère de l'intelligibilité même. Donc, nous savons d'avance, c'est posé dans le principe, que c'est une structure de la connaissance, c'est que ce qui nous permet de connaître sera lui-même inconnaissable.
C'est une révélation.
C'est une révélation. Et ça nous permet de distinguer l'homme et Dieu. Parce que pour Dieu, qui crée cette affaire, c'est son acte, donc il le connaît. Donc, lui, il n'est ni dans l'ordre, ni dans l'aléatoire, ni dans le mélange des deux, ni dans l'abîme. Alors ça s'appelle la transcendance divine. Donc, il est au-delà des catégories qu'il crée, évidemment, puisque c'est le créateur. Il précède tout, non pas chronologiquement, mais principiellement. Donc, il y a un principe et qui nous donne ce monde dans lequel il serait totalement vain et sans doute destructeur de prétendre connaître ce qui est inconnaissable. Pourquoi? Parce que cette structure, on va le voir, c'est la structure qui permet l'existence de la connaissance. S'il n'y a pas cette structure, on ne peut rien connaître. Alors, dans cette structure, il y a l'inconnaissable. Donc, je dis que une des conditions sine qua non pour qu'il y ait de la véritable connaissance dans le monde, c'est-à-dire pour nous, c'est qu'il y ait aussi des choses inconnaissables. Et vous sentez tout de suite que c'est, même de l'entendre dire, bien que ce soit parfaitement logique, c'est un peu désagréable. Nous, on aimerait bien qu'il n'y ait pas d'inconnaissable en soi. Et il nous faut une révélation pour nous le dire. Et même quand on nous le dit, on a du mal à le comprendre. Et cependant, nous allons voir à travers toutes les Écritures, et en particulier avec le récit de la chute, justement, que le problème, ça va être d'accepter cet inconnaissable. Ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à connaître, qu'il n'y a pas une infinité de choses à connaître, mais il y a de l'inconnaissable. Et le premier inconnaissable qui nous est proposé par ce récit, c'est notre propre intelligence.
Et puis ça nous met immédiatement dans une relation, c'est-à-dire que ce qui ne nous est pas connaissable doit nous être révélé. On a besoin de recevoir du Créateur les informations qu'il souhaite nous transmettre.
Et c'est pourquoi le premier accès à la divinité qui nous est révélé, c'est que Dieu parle. Voilà, donc écoutons. Et c'est prodigieusement intelligent. Alors, en Dieu, quelle est la différence avec l'homme? C'est que pour l'homme, sa propre intelligence va être inconnaissable. Je dis pas son fonctionnement neuronal. Ça, on peut étudier, c'est de la biologie. Mais vous comprenez bien que les neurones, c'est pas l'intelligence. Ça, c'est tout à fait autre chose. Mais Dieu connaît sa propre intelligence. Donc Dieu n'est pas créé. Et la propre intelligence de Dieu, disons-le tout de suite, parce que beaucoup de gens connaissent ces choses-là, c'est le logos divin, c'est justement la parole divine. Donc la parole divine est nécessairement intelligente. Et même, comme dira saint Thomas beaucoup plus tard, c'est l'intelligence même. La première chose qu'on peut dire de Dieu, c'est qu'il est l'intelligence. Alors, nous allons essayer d'accueillir ce qui nous vient de lui.
Alors, je crois que nous poursuivrons cet échange et puis cet approfondissement lors de notre prochaine émission. Jean-François, merci en tout cas pour cet éclairage, je crois, fondamental, puisque nous sommes dans ces premiers versets qui nous disent qui est ce Dieu, qu'est-ce qu'il nous révèle et ce que nous sommes sous son regard. Merci encore, à bientôt Jean-François.
Au revoir Père Éric.
يسمحوا هالشمايل